Grégoire Frati, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous avez 32 ans, vous êtes historien de formation et vous êtes membre de la Convention citoyenne pour le climat et l'auteur d'un livre paru aux éditions First, « Moi, citoyen, l'aventure de la Convention citoyenne pour le climat vue de l'intérieur ». Alors c'est une aventure de 9 mois, hein, de 2019 à 2020, qui vous a amené à travailler avec 149 autres citoyens tirés au sort, comme vous, sur l'épineuse question qui était le mandat de la Convention. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre françaises de 40% d'ici 2030 en toute justice sociale, donc dans l'objectif de juguler le changement climatique. Pour nous qui avons suivi cette aventure de la Convention de l'extérieur, c'est très intéressant d'en approcher le vécu de l'intérieur justement en vous lisant. Mais qu'est-ce qui vous a décidé, vous, Grégoire Frati, à raconter cette aventure dans un livre quand même? C'est un gros travail supplémentaire.
Oui, c'est un gros travail supplémentaire, mais il était pour moi important de donner un côté humain à cette aventure, parce que c'est une aventure institutionnelle, une aventure politique, une aventure climatique, et finalement on a tendance à oublier que derrière ça, il y a 150 personnes qui ont des histoires personnelles, qui ont été tirées au sort, et je trouvais ça important de redonner ce côté humain à cette histoire, parce que loin des caricatures, loin des fantasmes, bah voilà, nous sommes des Français comme les autres, nous avons été informés, nous avons été sensibilisés à la question, nous avons posé des mesures, ça permet de comprendre comment on a fait ce cheminement individuel et collectif. Je trouvais ça important de le faire.
Mais quand vous avez accepté de participer à la convention, vous étiez déjà au fait de la problématique du climat?
Justement, je le raconte dans le livre, moi, pas du tout. La question climatique, c'est quelque chose qui m'intéressait pas plus que ça. J'étais conscient qu'il y avait une urgence climatique, mais c'était pas mon urgence à moi. Je travaille dans le social, dans l'insertion, et j'ai plus tendance à me consacrer à la fin du mois pour certaines personnes, plutôt qu'à regarder la fin du monde bien lointaine. Donc non, j'ai plus accepté par civisme, en me disant, bah voilà, pour une fois, on me demande mon avis, et je suis suffisamment apte à dire qu'on ne m'écoute pas, que je suis pas représenté, pour que quand on me demande mon avis, justement, bah voilà, je puisse le donner, je puisse me dire, allez, cette fois, j'y vais et je vais donner un peu de mon temps.
Toute la première partie de votre livre est consacrée donc à l'expérience de la Convention, vraiment. D'abord, vous avez commencé par vous familiariser avec ces sujets qui sont quand même très pointus. On parle de droit français, on parle du changement climatique. Vous avez discuté, écouté des politiques, des patrons, des militants. Et alors, vous écrivez, page 91, « Notre pensée manichéenne en a pris un sacré coup ».
En effet, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a souvent des avis qui sont basés sur pas grand-chose. On a tous un avis sur la question climatique, on a tous un avis sur la justice sociale, et finalement, quand on creuse un petit peu, quand on va rencontrer des experts, des scientifiques, des militants, des industriels, on arrive à se construire une position parfois plus mesurée, qui n'est pas toute verte ou toute noire, c'est-à-dire que l'industriel, c'est pas le grand méchant. Le militant, c'est pas que forcément le gentil. Il y a des deux, on peut trouver du bon et du mauvais partout, et justement, c'est ce qu'il faut essayer de construire. Il faut essayer de construire une position mesuré, raisonnable. Et avec les 150, nous avions des positions qui étaient totalement différentes. On avait la personne qui était sans domicile fixe et on avait le chirurgien. On avait toutes les catégories socioprofessionnelles, chacun avec sa position justement manichéenne. Et justement, à 150, on s'est confronté, on a mélangé tout ça pour arriver à ressortir quelque chose de commun. On a créé un consensus. Et c'est ce consensus-là justement qui nous fait sortir de ces positions.
C'est vrai que dans un des premiers chapitres de votre livre, vous citez Bukowski, le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, alors que les imbéciles sont pleins de certitudes. Ça n'a pas dû être très facile de composer avec 149 autres individus, enfin, pleins de doutes et de certitudes, Grégoire.
Mais justement, moi, c'est ce que je dis aussi, c'est que le citoyen, finalement, c'est pas lui l'abruti, parce que le citoyen, il est capable de se remettre en question. Enfin, moi, c'est ce que je remarque, c'est que les 150 citoyens, eh ben, nous avons pu assez facilement, en fait, remettre en cause nos certitudes pour, justement, apprendre. Nous avons appris de beaucoup, nous avons appris des scientifiques, des experts, nous avons pu nous confronter à des réalités, et justement, nos certitudes, on les a balayées assez vite pour creuser les choses. Et c'est là où je pense que, moi, le citoyen a une plus-value à apporter, justement, dans la chose politique, parce que le citoyen, il a pas de parti à défendre, il a pas d'élection à défendre, il n'a pas de boutique à vendre, juste il a son rôle de citoyen, donc il est capable de dire « ah bah je me suis trompé, ah bah tiens je vais changer d'avis », et c'est ça aussi dont on a besoin de personnes qui soient capables de se remettre en question pour essayer de construire un avis, mais un avis construit, un avis raisonnable, un avis qui est basé sur des faits.
Ouais, c'est-à-dire qu'au bout de ce cheminement, de tout ce travail que vous avez fait en commun, finalement, le consensus, ça paraît très fort, parce qu'il y avait des gens qui étaient climato-sceptiques au début, donc il s'est passé vraiment quelque chose de très important.
Effectivement, c'est quelque chose de très fort, et moi, je trouve ça passionnant d'avoir vu, effectivement, des climato-sceptiques changer d'avis, de se dire, en fait, effectivement, je manquais d'informations, maintenant je comprends mieux les choses, et je suis prêt à accepter autre chose. On avait des personnes qui étaient ultra-militantes et des personnes qui, comme moi, s'intéressaient pas vraiment à l'écologie. Bah, on s'est mis d'accord la plupart de nos mesures à plus de 80%. 80%, c'est des choses qu'on ne voit jamais dans la classe politique, on ne voit jamais. Et pourtant, Parmi nos citoyens, on a des gens qui votent très à droite, des gens qui votent très à gauche, des gens qui sont anarchistes, des gens qui n'ont pas le droit de vote. On a des jeunes de 16-18 ans, par exemple. Et en fait, notre dissensus politique n'a pas empêché notre consensus sur les mesures du climat. Et ça, c'est important, ce grand écart politique qu'on a réussi à faire, parce que autant sur plein de sujets, on va s'écharper, autant sur les mesures climatiques, non, on a réussi à se mettre d'accord.
Il y a eu vraiment des points de dissension ?
Des points de dissension, en fait, on les a vécus assez facilement parce qu'en fait, déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné un objectif commun. Et déjà, quand on se donne un objectif commun, c'est plus facile d'avancer ensemble. On a parlé de crise climatique, on a parlé d'urgence, on a parlé des blocages. Et ensuite, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut régler ces leviers? Et ben voilà, on a essayé d'avancer dans des directions. Il y a des directions qui étaient plus compliquées que d'autres. Par exemple, la question du nucléaire, c'est une question qu'on n'a pas évoquée parce que c'est une question qui était trop source de dissensus. Et l'idée, c'était d'accepter de trouver des mesures dans un esprit de justice sociale qui fasse consensus dans la société française. Nous, on n'est pas là pour mettre une mesure qui va créer du clivage. On était là pour dire, bah voilà, par exemple, la taxe carbone, on n'est pas tous d'accord, c'est une mauvaise idée, ça peut mettre des gilets jaunes dans la rue. Nous, on était là pour trouver les solutions qui, en fait, embarquent tout le monde, qui mettent tout le monde d'accord. Et cette idée de chercher du consensus, c'est une idée nouvelle, parce qu'en fait, le politique se construit par le dissensus, il se construit par la confrontation, en disant, je suis pas d'accord parce que ce que vous dites est faux. Nous, on était là pour dire, bah en fait, on peut être d'accord ensemble sur ce point-là, même si sur les autres, nous ne sommes pas d'accord. Mais vu que là, on est d'accord, avançons. Et on a avancé, et finalement, quand on cherche ces idées de consensus, on met quelques sujets de côté, mais on arrive avec 150 propositions. Et la crise climatique, le politique nous répondait taxe carbone, nous, on répond avec 150 autres solutions.
À vous écouter et à vous lire aussi, Grégoire, on a l'impression que justement, cet esprit de justice sociale, c'est un peu ça qui a été l'huile dans les rouages, le ciment de toute cette convention.
Exactement, plus que l'huile dans les rouages, je le vois vraiment, oui, comme le ciment ou comme le socle. C'est-à-dire qu'on ne traitait les propositions qu'avec cet angle-là, parce que on était dans un angle où il fallait prendre l'acceptabilité, il fallait prendre en compte tous les profils, et c'est tout l'avantage d'avoir 10% d'ouvriers dans la Convention citoyenne, là où à l'Assemblée nationale, il y a 1% d'ouvriers. On était là aussi pour prendre en compte toutes les catégories socioprofessionnelles, toutes les problématiques de territoire. On avait des gens des dom-toms, on avait des gens qui vivent à la montagne, des gens qui vivent sur les littoraux. Et ça permet de prendre toutes les situations en compte. Et effectivement, cette justice sociale, pour nous, c'était quelque chose de primordial parce que on a toujours tendance à voir le politique un peu déconnecté des choses, qui ne prend pas en compte nos réalités de terrain. Bah, nous, on est parti des réalités de terrain pour construire des propositions. On a pris le chemin inverse.
Alors, au départ, j'imagine que vous vous sentiez peu légitime, d'ailleurs c'est vrai que vous en parlez dans votre livre, puis il y a certains politiques qui ne sont pas privés de vous faire sentir cette légitimité, mais pourtant vous l'avez gagnée cette légitimité. Comment vous l'avez senti? À quel moment vous avez senti qu'il y avait un déclic, Grégoire Frati?
Alors en fait, ce déclic, pour moi, il a été progressif, parce que effectivement, il y avait une vraie question de légitimité que je n'évacue pas dans le livre, parce que même pour moi, elle m'a posé question. Oui. Le tirage au sort, qu'est-ce que c'est finalement? Pour moi, la démocratie, comme pour beaucoup, c'est l'élection. En fait, on se rend compte déjà, quand on creuse un petit peu dans l'histoire, la démocratie, ce n'est pas que l'élection. Même la démocratie avant l'élection, c'était le tirage au sort. Et puis le tirage au sort, c'est quelque chose qui existe dans notre démocratie. On le voit pour les jurés d'assises aujourd'hui, c'est le pouvoir judiciaire. Et ben voilà, là, on donne accès à des gens tirés au sort, un gros pouvoir, le pouvoir de juger des gens. Donc effectivement, cette question de légitimité, elle se posait. Ensuite, il y avait une autre légitimité qu'on a de fait, c'est la légitimité de la représentativité. C'est-à-dire que oui, on n'est pas élu, mais nous sommes statistiquement une mini-France. C'est-à-dire que, bah voilà, une assemblée où il y a plus de femmes que d'hommes, parce qu'en France, il y a plus de femmes que d'hommes. Une assemblée où on fait participer des sans-domicile fixe, parce qu'en France, il y a des gens en très grande précarité qui méritent d'être représentés. On a, que 25% de personnes qui ont au-dessus du bac. Parce qu'en France, c'est ça la réalité. Et donc, on n'arrive pas avec une assemblée grisonnante de cinquantenaires, bac plus 5 ou plus, comme on peut voir dans d'autres assemblées de la République. C'est important de voir ça, de voir cette représentativité s'exprimer, parce qu'on donne la parole à ceux qui ne l'ont pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'on vient remplacer la légitimité des élus, mais on vient apporter autre chose en plus. Faut vous voir ça comme quelque chose qu'on ajoute, pas comme quelque chose qui est là pour remplacer, parce que l'idée, c'est pas de confronter les légitimités, mais plutôt de les accorder ensemble. Et puis ensuite, effectivement, il y a la légitimité qu'on s'est construit avec la qualité de notre rapport, la qualité de notre production, c'est-à-dire que ceux qui venaient critiquer notre manière de travailler, mais qui sait, pourquoi ils font ça, finalement, le jour où on a sorti nos propositions, ils se sont dit, bon, Ouais, commencer à parler du fond parce qu'en fait sur le fond ils sont techniques. Et à partir de ce moment-là, bah voilà, on arrive autour de la table avec le MEDEF, la CGT, le gouvernement, les parlementaires, les industriels, et on arrive à parler d'égal à égal parce que finalement nos propositions sont pas farfelues, elles sont pas venues d'en haut, c'est-à-dire influencées par un lobby ou par le gouvernement. Non, c'est des propositions citoyennes et ça leur donne une légitimité à ces propositions en elles-mêmes et donc nous ça nous permet de les défendre plus facilement.
Parce que ça n'a pas dû être facile toujours. Vous avez été tour à tour vilipendé ou au contraire adulé par la presse. Quelque part, on essayait de manipuler en fait votre travail depuis l'extérieur. Ça n'a pas dû être facile, ça.
C'était pas facile, en fait, on cherchait à tout prix à nous mettre dans une case. Et en fait, cette case, elle nous correspondait jamais parce que on était 150. Donc il y avait 150 cases à trouver. C'est-à-dire qu'on a commencé comme convention Macron. Puis après, au bout de deux sessions de travail, on nous a regardé, on a dit, en fait, finalement, vous n'êtes pas la convention Macron, vous êtes la convention des radicalisés. Vous êtes instrumentalisés par les militants. Puis deux semaines après, oh, regardez, sauf que le président de la République, c'est vraiment la convention du gouvernement. Puis on retombait dans la convention des radicalisés. Et en fait, on naviguait entre critiques, on en fait trop, on n'en fait pas assez. Bah, en fait, je trouve que ça, c'est limite glorifiant pour nous, parce que ça veut dire qu'on n'arrivait pas à nous mettre dans une case, parce qu'en fait, au sein des 150, bah oui, il y avait des gens militants engagés, oui, il y avait des gens qui étaient pro-gouvernement, on avait même des gens qui étaient plutôt à l'extrême droite, on avait des gens qui étaient anarchistes, je crois même qu'on avait un monarchiste dans la convention, bah voilà, c'est comme ça, donc compliqué de nous mettre dans une case quand on est tous différents, parce qu'on était représentatifs de la société française.
Alors, pour revenir sur le travail que vous avez effectué dans votre groupe, vous étiez Grégoire Frati dans le groupe Se Loger, donc le bâtiment qui représente 19% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, vous avez participé à la mesure sur la rénovation des bâtiments, qui est, ce que vous dites dans le livre, la plus coercitive, la plus chère, c'est ce que vous écrivez, mais elle a été votée à 85% par la Convention. Alors, qu'est-ce qui vous a fédéré tous, là, les 149? En fait, vous étiez combien, d'ailleurs, exactement?
En fait, on était un tout petit peu plus de 150 parce qu'il y avait des remplaçants. D'accord. C'est-à-dire que, bah, effectivement, bah, il y a des gens qui, sur 9 mois, bah, se sont cassés la jambe et du coup ne pouvaient plus continuer les travaux. D'autres personnes qui ont dû arrêter pour des raisons personnelles. Donc, on avait un pool de remplaçants. Mais finalement, à la fin, on était 150 votants. Et donc, oui, effectivement, c'est la mesure du logement, c'est une mesure très chère, très coercitive, mais qui remplit toutes les cases. C'est-à-dire que c'est une mesure qui remplit la case climatique, parce qu'effectivement, il y a un gros vivier de gaz à effet de serre. C'est une mesure qui remplit les cases sur la faisabilité. Faire voler un avion aujourd'hui avec des batteries, on n'arrive pas trop bien à le faire. En revanche, rénover une maison pour qu'elle soit neutre en carbone, ça, on sait le faire. C'est une technologie qu'on maîtrise, qu'on n'a pas besoin d'inventer et qui ne sera pas disponible dans 10 ans, dans 20 ans. Elle est disponible aujourd'hui. On le fait déjà. En plus, c'est une mesure de justice sociale parce que finalement, quand on rénove une maison, bah voilà, moi, petit propriétaire, je peux passer ma facture d'électricité de 200 euros par mois à 50 euros par mois. Oui, l'hiver, j'aurai pas froid parce qu'en fait, j'ai plus d'argent pour me chauffer. Moi, locataire de passoire thermique, bah voilà, ce sera interdit qu'on puisse me louer une passoire thermique. Donc, mon propriétaire sera obligé de faire des travaux. Donc, en fait, c'est une case aussi qui va permettre de créer de l'emploi. Parce que rénover des centaines de milliers de logements, c'est des centaines de milliers d'emplois. C'est des milliards d'euros injectés dans l'économie. On est très loin de l'écologie punitive, de l'écologie de la décroissance. On est plutôt dans quelque chose qui va permettre, bah voilà, de faire avancer la relance de la France. Donc, ça cochait toutes nos cases, cette mesure. C'est une mesure qui, oui, elle coûte cher, oui, il va falloir faire des travaux, mais finalement, elle va mettre tout le monde d'accord, le gouvernement, les industriels, le citoyen, l'engagé du climat. Je vois pas grand monde qui peut être contre cette mesure, et d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui, dans la plupart des cercles qu'on peut rencontrer, industriels, partenaires sociaux, gouvernement, tout le monde est pour avancer sur cette mesure. Après, maintenant, il faut du courage politique, il faut y aller, il faut se donner les moyens de ses ambitions, c'est tout le travail qu'on est en train de mener encore aujourd'hui avec le gouvernement et les partenaires du bâtiment, mais moi j'y crois, à cette mesure qui pourtant, effectivement, est la plus chère de la Convention, est une des rares obligations qu'on veut imposer, mais... Ça peut le faire. Aujourd'hui, on sait le faire et on va le faire, je l'espère.
Alors, après plusieurs mois de travail, Grégoire Frati, pour formuler des propositions concrètes dans tous les domaines, pouf, l'arrivée du Covid. Le virus vous a fait une sorte de concurrence déloyale, hein, en effaçant le climat des préoccupations nationales. Ça a changé beaucoup de choses dans la Convention?
Ça n'a pas vraiment changé beaucoup de choses dans la Convention, étant donné que, au contraire, ça faisait un écho malheureux à nos mesures. Dans nos mesures, on parlait de télétravail, on parlait de pistes cyclables, on parlait de remettre les industries en France, de relocaliser certaines choses, de faire du circuit local. Ben voilà, ça c'est des choses qu'on a beaucoup entendues durant cette période du Covid. Ben voilà, aller chercher ses fruits et légumes à côté de chez soi parce qu'on avait peur que les magasins soient vides. En fait, toutes nos mesures résonnaient avec ce Covid et on se dit, ben en fait... Malheureusement, ça nous donne raison, sachant qu'en plus, On fait le lien assez facilement entre baisse de la biodiversité et l'arrivée du coronavirus. La biodiversité est en fait très liée à cette question d'écologie, de climat. Malheureusement pour nous, oui, ça nous a donné raison et au contraire, ça nous a peut-être renforcé dans notre volonté de changer les choses. On parlait de taxer les lignes aériennes pour baisser la fréquentation. La fréquentation s'est effondrée d'elle-même. C'est comme ça. Allons vers la promotion, vers les pistes cyclables, vers la réparation des vélos, vers les transports doux, vers les transports en train. Profitons aussi de cette relance qui nous a été proposée par le gouvernement pour répondre à la crise du coronavirus et à la crise économique. Il y a eu 100 milliards sur la table. Bah, profitons de ces 100 milliards pour financer les mesures de la Convention citoyenne. Profitons-en pour ne pas repartir comme en 40 et de repartir dans les mêmes dérives. Au contraire, profitons de ce tournant qui nous est imposé pour améliorer les choses. On a tous voulu, pendant ces périodes de confinement, aller profiter d'un champ, aller à la campagne, aller courir dans un parc. Bah ouais, mais en fait, ça, il faut les mettre en place, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'espace vert dans les villes, qu'il y avait trop de voitures, que finalement, l'air qu'on respirait n'était pas le meilleur. On avait envie de reprendre goût un petit peu dans la nature. Bah voilà, tout ça, c'est des mesures qu'on portait dans la Convention citoyenne. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que profitons de cette relance pour préparer le monde d'après. Et le monde d'après, bah, faisons un peu pour qu'ils soient un petit peu plus verts.
Alors, fin juin, Grégoire Frati, vous avez rendu les 149 propositions de mesures au président Macron, qui en a refusé trois, hein, des jokers, hein, comme il disait. Comment vous avez pris justement ces trois jokers, comment vous l'avez vécu, vous personnellement, puis aussi vous tous de la Convention, à quoi correspondaient ces refus?
En fait, on a eu trois refus. Un sur le préambule de la Constitution, un sur la limitation sur la vitesse sur autoroute à 110 km/h et un autre joker sur la taxation des dividendes. Personnellement, je me suis dit, trois jokers sur 149 mesures, on s'en sort très très bien. Je m'attendais concrètement à ce qu'on soit beaucoup plus mis de côté. Et je ne m'attendais pas à ce que autant de nos mesures aient une réponse gouvernementale. Donc moi, j'étais plutôt quelqu'un de ravi. Même si je dis que certains jokers, j'ai du mal à les comprendre. Refuser une taxation sur les dividendes alors qu'on proposait 4% pour les dividendes au-dessus de plusieurs millions d'euros, c'était pas quelque chose de déraisonnable. Mais bon, dont acte, on n'a eu que trois refus. Moi, si j'avais eu 19,5 sur 20 pendant mes cours, j'aurais été heureux. Je prends. Effectivement, moi, je comprends. Ça fait quand même grincer quelques dents sur les messages que ça peut donner, sur les messages que ça peut passer. Je pense que voilà, on s'en est plutôt pas trop mal sorti. Je pense qu'on a plus été étonné du fait que on a été repris par la sphère politique. La sphère politique a accepté l'engagement du président de la République et s'est pris au jeu. C'est-à-dire que bon, on a vu les gouvernements, là on voit les parlementaires, ben voilà, s'imposer les mesures de la Convention citoyenne comme feuille de route et de se dire ben voilà, on a eu des ambitions sur la table, ben voilà, va falloir essayer d'y répondre. Alors aujourd'hui, les réponses, on le voit, elles sont pas forcément à la hauteur des ambitions de la Convention citoyenne. Là-dessus, moi je suis clair. Il y a pas mal de nos mesures qui sont un petit peu rabotées avec des dates qui sont rallongées. Néanmoins, on arrive quand même à pouvoir voir le verre de temps en temps à moitié plein quand on voit des grosses mesures arriver sur la table, les chèques alimentaires, l'interdiction de location des passoires thermiques, l'éducation au développement durable. Tous ces sujets, en fait, qui n'étaient pas traités depuis des années, là, sont mis sur la table, et certains avec de belles ambitions. Donc, pour moi, ça fait plaisir. Je me dis qu'on a réussi à poser quelque chose. On a réussi à poser une direction. Une direction, et nous, on va tout faire pour qu'elle aille le plus loin possible, le plus vite possible. Mais je crois que, quoi qu'il arrive, on en aurait toujours voulu plus, toujours voulu aller plus loin, parce que l'urgence climatique, malheureusement, ne nous attend pas. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'avec cette base de cette loi climat, déjà, les parlementaires puissent aller plus loin, puis que ça soit la base de discussion pour les prochaines lois climat, pour les prochaines élections aussi, qu'on puisse se dire, bah voilà, il y avait cette ambition-là. Là, déjà, on est allé plus loin qu'on a fait depuis ces 40 dernières années. Effectivement, 30 milliards sur la table pour l'écologie, c'est du jamais vu en France. Mais bon, il nous fallait pas 30 milliards, il nous fallait 50 milliards, 100 milliards. Mais maintenant qu'on a franchi ce cap, on reviendra jamais au point où on en fera moins, on pourra toujours qu'en faire plus. Donc moi, c'est pour ça, je me bats pour chaque victoire, je me bats pour chaque mesure en me disant, dès qu'on arrive à ancrer une mesure dans la loi ou à l'ancrer dans le débat politique, on a réussi notre combat de convention citoyenne, c'est-à-dire c'est le citoyen qui a donné l'agenda politique. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir que l'agenda politique, quand il parle pas Covid, ben voilà, il parle publicité, il parle logement, il parle ligne aérienne, il parle investissement sur l'hydrogène. Toutes les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, elles innervent la société, elles innervent le débat, elles confrontent la politique, elles confrontent le politique, et moi j'espère qu'on n'en restera pas là, c'est-à-dire que ça continuera. Mais aujourd'hui, moi je suis toujours sur ce petit mais, On espère qu'il y ait plus d'ambition qui arrive avec les parlementaires. On espère voir une loi en climat encore un peu plus ambitieuse.
Grégoire Frati, vous avez tiré un certain nombre de conclusions de cette expérience. Quelle place va garder le citoyen que vous êtes? Quelle place vont garder les 150?
Justement, dans mon livre, j'en parle beaucoup de cet après, parce que pour moi, il y a différentes évolutions démocratiques qu'on devrait pouvoir saisir à l'occasion de cette innovation qui a été testée. Déjà, pour les 150, je pense que ça y est, nous ne sommes plus des citoyens lambda. Nous avons été mis dans le cœur de la République. On a appris beaucoup de choses, on a appréhendé le milieu politique, le milieu médiatique. Je pense que pour nous, il est temps qu'on redevienne autre chose. Si on veut continuer l'engagement, qu'on se lance en politique, qu'on se lance dans l'associatif, qu'on se lance dans le syndicalisme, mais il est temps que le citoyen ne se professionnalise pas. J'en appelle à ce qu'il y ait d'autres citoyens tirés au sort. Il faut qu'il y ait 150 nouvelles personnes qui puissent parler des sujets de société, qui puissent parler de la politique. Donc oui, d'avoir des citoyens avec qui on ne fait pas simplement un sondage, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas, pendant 3 minutes, on leur pose 50 questions, on raccroche, on a oublié quelles étaient les 10 premières questions. Là, c'était pas ça. C'était de se dire, on va prendre des Français, on va les informer, on va les former, pendant des mois, ils vont travailler, puis après, on leur demandera de faire des propositions. Ouais, c'est autre chose. Là, on va les chercher, on leur donne une place. Et c'est pas une place qui est là pour remplacer l'élu, qui est pas là pour remplacer le scientifique ou l'expert. On est là pour apporter quelque chose en plus. Il y a un vrai essoufflement démocratique. Les citoyens se retrouvent de moins en moins dans la politique avec un grand P. Donc voilà, moi je pense que le citoyen doit trouver sa place. Ça a été essayé avec cette convention citoyenne. Je pense que c'est une piste de solution qui apporte quelque chose qu'on pourrait lier à d'autres. Mais c'est déjà une bonne base et je trouve déjà qu'on avance.
Merci beaucoup.
Non, merci à vous.